Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Il est 11h30 exactement. On est toujours en direct sur Radio Immo, ici à Cannes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une vue superbe sur la mer. Il fait très beau. On a eu beaucoup de bol. Parce que je peux vous dire que le week-end dernier, c'était quand même un peu compliqué. Merci en tout cas d'être avec nous. Il est encore temps de venir au MIPIM. On est avec vous jusqu'au 15. Je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on a ouvert cette seconde journée, on allait recevoir pas mal d'élus aujourd'hui. On a eu le premier adjoint à la mairie de Nîmes. On a le maire de Lyon qui va venir tout à l'heure. Et là, je l'ai attrapé au vol. J'en suis ravi parce que pas évident toujours de l'avoir. Il est avec nous, j'en suis ravi. C'est Stéphane Baudet. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sylvain.
Stéphane, maire d'Évry-Courcouronnes, vice-président de la région Île-de-France, président de Génome et également de l'association des maires d'Île-de-France. Inutile de dire
ça
que...
fait bon cumulard tout
ouais.
ça. Hein.
Non, ça veut dire que, ça veut dire que vous êtes particulièrement actif. Alors pour ceux qui vous connaissent, on le sait. Ça c'est clair. D'ailleurs, je vous ai toujours posé la question. C'est une des premières fois où je vous interviewais. Je vous demandais si vous dormiez de temps en temps.
Pas assez.
Parce que vous étiez hyperactif. Vous êtes doté d'une survitalité. Sans compter les centaines de kilomètres à vélo.
10 000 par an.
Ouais. Au ski, vous êtes imparable, incroyable. vous arrêtez jamais. Voilà.
Bah, c'est ça, c'est une énergie. Mais ici, je pense qu'il y a des centaines de personnes qui sont pareilles. Hein. C'est
ouais. Et maire depuis 23
de
ans.
Dynamique.
Maire depuis 23 ans.
C'est ça.
Et vous avez opéré en France quelque chose qui est extraordinaire, que je trouve d'un point de vue structurel, c'est une fusion de communes.
La plus grande de France.
Ouais.
La plus grande de
vous
France.
Avez fait
avant Saint-Denis-Pierrefitte qui
oui,
arrive.
Oui, mais vous avez été le premier à initier la fusion de la ville d'Évry et de Courcouronnes.
C'est ça.
Vous êtes le premier, hein. C'est-à-dire dans la 5e République, on dira, dans l'historiographie, vous savez, dans la 5e République, lorsqu'il y a eu la fusion des communes, le premier à avoir initié, c'est Stéphane Baudet, qui fut maire avec 14 mandats.
Non, mais ça me fait plaisir parce que on fait souvent cette comparaison avec le copain Patrick Collier, qui est maire de Rueil et, bon, évidemment, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, mais on a une particularité commune tous les deux, c'est qu'on, du coup, on a été tous les deux maires de deux villes, une petite et une grande.
C'est vrai.
Voilà, et c'est assez génial d'avoir ce regard, d'être maire d'une ville moyenne et de devenir ensuite maire d'une ville-préfecture, parce que le rapport à l'État, on est ici au MIPIM, le rapport aux investisseurs, enfin le regard que l'on jette sur la commune et donc sur l'élu n'est pas du tout le même.
Alors justement, je profite de vous poser la question. On a quand même été un peu chahuté ces derniers temps sur le plan de l'industrie immobilière, du logement, du fait de bâtir. Je ne vais pas revenir sur les chiffres catastrophiques, mais moins 50% dans certaines régions. Un fléau national qui est le logement, qui frappe très durement les classes moyennes. Vous le dites très très souvent. Second mandat d'Emmanuel Macron, 4 gouvernements, 5 ministres du logement. Faut-il encore espérer quelque chose de l'exécutif actuel, ou est-ce que le rendez-vous, Stéphane, ce sera aux urnes en 2027?
Ouais, moi j'ai peur que la crise du logement soit prolongée, parce que il y a évidemment la question de l'inflation. Enfin, avant l'inflation, il y a quand même eu une forme de casse. Moi, je me souviens des congrès de l'USH. Hein. On a quand même tapé fort dans le logement social. Il y a l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt qui a quand même complètement grippé le dispositif. Et puis, on arrive dans un calendrier électoral. Vous évoquez, Sylvain, 2027, c'est l'élection présidentielle. Enfin, il y a avant, en 2026, élection municipale. Dans le débat public actuel sur la transition écologique et sociale, qui confronte à la fois la nécessité d'avoir 1 million de logements en France en plus d'ici 2032 à l'élaboration des ZAN et donc la protection. ZAN qui est évidemment philosophiquement plutôt une bonne idée, mais qui pour l'instant n'est pas financée. Dans mon agglo à Grand Paris Sud, on va dans le cadre du SCOT. Grand Paris Sud a une particularité, c'est que c'est une agglomération composée à cheval sur deux départements, mais qui est héritière de deux ex-villes nouvelles. Pas une, deux. La ville nouvelle d'Évry et la ville nouvelle de Melun. Une s'est développée en termes urbains très très fortement, la ville nouvelle d'Évry, et une ne s'est pas beaucoup développée du point de vue urbain, celle de Sénart, qui recèle encore énormément de terres agricoles. Dans ces terres agricoles, il y en a 800 qui étaient dévolues au développement urbain dans les années à venir. Dans le cadre du SCOT actuel, on remet ces 800 hectares en terres agricoles. Ce qui ouvre un débat de fond sur, évidemment, la surdensification des villes déjà urbaines, comme la mienne, la protection des terres agricoles, mais dans un pays où on a enlevé la taxe professionnelle, puis la taxe d'habitation, de là de la rupture du pont démocratique avec les habitants.
La baisse des DMTO qui vous frappe aussi très durement.
Exactement, la question se pose financièrement pour les collectivités de ce soutien à la fois la construction du logement dans une période schizophrène, où chaque fois que vous faites un permis de construire, vous avez des pétitions qui sortent, et la proposition de protéger des terres agricoles, ce qui quand même, à la fin, enlève des dotations potentielles pour les collectivités, notamment fiscales, puisque sur ces terres où on ne construira plus, on perd par nature des terres que l'on garde, mais des recettes potentielles. Donc, si on ajoute ça au calendrier électoral, c'est-à-dire les 2 ans avant les élections municipales, les maires qui ne sont pas les mieux installés, parce qu'il y en a, moi j'ai jamais fait 2 tours aux élections municipales, donc j'ai une latitude, une capacité à faire que d'autres maires n'ont pas nécessairement, donc ça va nécessairement ralentir. Je dis souvent maire bâtisseur égale maire battu, et puis les équipes nouvelles qui vont arriver post-2026 vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à s'installer, à lancer des projets. Donc j'ai peur quand même que la crise du logement soit là pour un moment.
Vous avez déjoué tous les pronostics, alors du coup.
Oui, mais je suis dans une ville urbaine, Aix-Ville Nouvelle, on a une culture particulière.
Vous n'avez aucun problème d'ego là-dessus. Vous avez toujours été maire bâtisseur. Et la deuxième chose en plus, c'est que vous avez opéré quand même une fusion de communes, ce qui n'était quand même pas neutre, et ça aurait pu être fatal d'un point de vue audience auprès de vos administrés. Pas le cas. Et en plus, alors là, je viens de l'apprendre, que je ne le savais pas, vous avez fait 4 mandats élus au premier tour.
C'est ça. Et on vient d'avoir, et j'en suis assez fier, un rapport de la Chambre régionale des comptes qui valide le processus de fusion qu'on a fait. Parce que quand on évoque les fusions, il y a des fusions à peu près, je crois que c'est 600 ou 700 fusions de communes qui ont déjà eu cours, mais pour des villes de moins de 10 000 habitants dans la plupart des cas.
Bien sûr.
Et on est à 3 strates de collectivités à peu près de notre taille qui ont fait des grosses fusions à l'heure actuelle. C'est Annecy. Ça s'est suivi une défaite municipale d'ailleurs, pour le maire qui avait initié ça, et Cherbourg. Mais dans ces 2 cas de figure-là, on est resté sur des formes presque intercommunales, puisqu'on a gardé des maires délégués, des conseillers municipaux délégués, etc. Nous, à Évry-Courcouronnes, on a véritablement fusionné. C'est-à-dire qu'on a baissé le nombre d'élus, il n'y a qu'un maire, il n'y a plus de maire délégué, il y a une seule identité communale. Donc on a fait la plus grande fusion complètement intégrée, 80 000 habitants, sur l'agglo 350 000 habitants. Et donc on a ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui est sorti après 9 mois de travail et qui a audité notre année ante-fusion et puis les 3 années après, et qui félicite et le processus de fusion et le processus de concertation et les décisions qu'elles ont emportées, en essayant, tout en maintenant une culture d'économie, d'additionner le plus et le plus de chacune des 2 communes, ce qui n'est pas intuitif. Hein.
D'où viendra le salut pour le logement ? Vous avez vu 10 mesures proposées par le tout nouveau ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, hein, ça a été publié dans la tribune pas plus tard qu'hier, dans le communiqué de presse, dans lequel on a l'impression qu'il y a des évidences redondantes.
Du côté de la MIF, on se bat pour le retour de l'aide à la pierre, par exemple, depuis des années. Donc il y a des sujets qu'on connaît. Enfin, la question du débat sur le logement, elle est quasiment cyclique. Le logement, c'est le parent pauvre de chaque crise, en fait.
De permacrise,
c'est exactement ça.
Polycrise. Enfin,
c'est exactement ça. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise, pour maintenir la pression sur la construction du logement, on vient voir les maires les démarcher en disant « je vais diminuer le nombre de mètres carrés, on va diminuer les prêts de sortie ». Et du coup, à chaque fois qu'on a une crise, on génère la crise d'après, puisqu'en réalité, pour continuer de construire, on paupérise.
Vous trouvez pas ça injuste qu'on tape sur les maires systématiquement parce qu'on construit pas ?
Si, bien sûr.
Oui, c'est les maires qui construisent pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je rencontre beaucoup de maires. Les maires sont coincés.
Mais baladez-vous dans les villes. On a un débat public qui est de plus en plus difficile. On a un débat sur la transition écologique et sociale qui joue évidemment contre nous. On a une pression. Mes oppositions sur ma ville, elles me font une pétition à chaque fois que je construis un immeuble. Mais en même temps, c'est les premières à m'envoyer un courrier pour soutenir la démarche de recherche de logement d'un tel ou d'un tel. Sur une ville comme Évry-Courcouronnes, ville-préfecture de l'Essonne, 80 000 habitants, j'ai 6 500 demandes de logement en flux tendu dans le social. J'avais 450 logements qui se libéraient par an il y a 2 ans. J'en ai 320 maintenant. Voilà, c'est pour bien comprendre la problématique. Donc,
c'est énorme.
Oui, mais en même temps, c'est la déstructuration du foyer familial. C'est quand même un vrai sujet. Enfin, je veux dire, en France, un couple sur 2 divorce.
Oui, oui.
En Ile-de-France, on est quasiment à 2 sur 3.
La décohabitation, ça fait
Il y a la décohabitation. Il y a voilà. Et quand vous divorcez avec des enfants, c'est pas 2 logements qu'il faut, c'est 2 grands logements.
Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici au MIPIM. Vous avez un comme tous et toutes ici, vous avez un regard sur l'industrie immobilière à l'échelle de l'Europe, voire du monde. Il y a 100 pays à peu près répertoriés. Vous êtes dans l'attente de Choose Paris, c'est là, donc avec tous les élus franciliens, bien évidemment.
Très présent d'ailleurs.
Vous avez beaucoup de casquettes. Je rappelle que vous présidez la MIF, qui est quand même, sur la métropole, une des plus puissantes organisations d'élus. À l'échelle de la métropole.
À l'échelle de l'Île-de-France, il y a 1200 communes, on a à peu près 1000 communes adhérentes.
Vous êtes d'accord, la MIP aujourd'hui est un acteur qui compte dans le paysage français, parce que
j'espère bien.
C'est un cinquième, non mais c'est un cinquième de la population française, tout est dit. On est d'accord. Alors, si je vous pose la question de savoir comment aujourd'hui on pourrait, vous pourriez. Alors, je sais que je ne sais pas si vous l'accepteriez, si Emmanuel Macron vous proposait le portefeuille
non, merci.
Du logement. Je suis sûr que vous ne le prendriez pas, ou alors vous le prendriez peut-être pour démissionner 8 jours après.
Ouais, je ne prendrai aucun portefeuille ministériel.
Voilà, non, parce que j'ai posé la question à Dugoin, que vous connaissez bien, Jean-Philippe. Je lui dis, mais est-ce que vous accepteriez? Je le prendrais pour démissionner après. Bon, c'est effectivement.
Vous savez, je ne vais pas citer.
Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse parce que. Vous êtes un homme politique. Vous avez fait 23 ans que vous êtes à la tête d'une commune. Vous avez tout vu dans la commune, pour être très clair.
Oui, et puis 4 présidents, une quinzaine de ministres.
Et vous êtes au contact de l'audience. Moi, je me rappelle une photo de vous, où vous êtes dans le tramway, et vous avez une pensée, vous dites, je vous cite, hein, pas mot pour mot, si on m'avait dit il y a 20 ans que là, je serais assis dans un tramway dont vous avez inspiré la réalisation, au-delà du fait que l'ego, quand même, c'est sympa. Moi, je dis que c'est sympa.
Bah, c'est à l'avantage du mandat de maire, c'est que parfois, on arrive à voir ce qu'on a projeté.
Vous êtes natif d'Evry, vous avez passé toute votre vie à Evry, vous avez rêvé d'un tramway, vous l'avez fait. C'est tranquille, ça, c'est bien.
Enfin, il aura fallu durer 4 mandats entre avoir l'idée et pouvoir l'inaugurer.
Mais belle satisfaction.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on ferait? Faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Vous, aujourd'hui, Stéphane Baudet, vous êtes aux affaires. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose que vous feriez, là, avec vos amis...
C'est le retour de l'aide à la pierre. C'est l'aide sur l'acquisition foncière
dans les zones tendues.
Exactement.
On n'était pas obligé d'arrêter le PTZ, de réduire les APL.
On connaît les solutions. On a grippé la machine. On vient d'accumuler 3-4 décisions qui ont grippé la... Et ce qui est assez dingue, c'est que sur un salon comme celui-ci ou sur d'autres, Jean-Philippe, on partage cela. Jean-Philippe est un grand spécialiste de la question du logement. On partage tous le même avis. Ce qui est assez délirant en réalité, c'est la confrontation de décisions nationales qui sont à l'encontre de tout de ce qu'on le pense collectivement ici. Toutes couleurs politiques.
Vous les connaissez tous. Ouais. Et en plus, on connaît votre style. Plutôt direct, le sourire ravageur, j'allais dire même assez félin. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les connaissez? Mais est-ce qu'il y a une volonté de les... Moi, je me suis posé la question.
Je pense qu'il y a
deux solutions. Vous savez, Michel Rocard disait la chose suivante. Il faut toujours privilégier la thèse de la connerie parce qu'elle est courante, parce que celle du complot requiert un esprit particulier.
Oui, moi, je crois pas au complot. Je pense à des décisions coup par coup, sans vision à long terme.
Donc,
sans vision à long terme.
C'est de l'incurie, c'est de la négligence.
Oui,
c'est
un décrochage. Alors, pardon de sortir du sujet du logement, mais je suis évidemment maire depuis longtemps. Je suis président d'une association d'élus importante. Et si on m'avait proposé un poste de ministre, dans une ville d'ailleurs où deux de mes prédécesseurs l'ont été, Guyard a été ministre, Manuel Valls a été et ministre et Premier ministre, moi j'ai toujours dit que je le refuserais parce que j'ai mené des combats avec de très nombreux maires pendant de très nombreuses années. Notamment, si je pourrais citer un exemple, sur la politique de la ville. Et certains de ces maires ont, eux, accepté d'être ministres. Et quand j'allais dans leur bureau en tant que président de la MIF, dans leur ministère, 15 jours après, j'avais plus le même face à moi. J'avais quelqu'un de désarçonné, j'avais quelqu'un dont j'avais le sentiment qu'il n'avait plus les moyens d'action, et la liberté de parole qui était la sienne quand il était maire, il ne l'avait. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Vous savez, quand on est maire, on est acteur. Combien j'ai vu d'ailleurs de copains quand
là,
il y a eu la fin du.
Vous parlez d'Olivier Klein.
Je citerai pas mon copain Olivier, mais j'en ai. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Mais
ça j'ai pas été le meilleur. Hein.
J'ai tellement vu de copains maires, moi, je vais vous dire, qui s'acharnaient sur le terrain, qui réalisaient ce pourquoi ils avaient été élus, qui au moment de la fin du cumul des mandats partaient à l'Assemblée, faisaient des dépressions et à l'élection de 2020 redevenaient maires parce qu'à l'Assemblée ils avaient l'impression de servir à rien. Voilà, c'est ce rapport entre cet état dont on a le sentiment qu'il n'écoute pas, qu'il n'écoute pas. Et c'est un peu ce qu'on attendait d'ailleurs d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, souvenons-nous quand même de l'élan qu'a généré cette élection et d'une certaine manière cette déception. D'ailleurs, certains journalistes un tout petit peu mieux informés que d'autres, peut-être un petit peu plus visionnaires, disaient attention, la Macronie, c'est quand même le retour d'une grande technocratie. C'est pas forcément le jeune visage de... Et c'est vrai que le mec n'avait pas été élu sur le terrain, donc c'est pas complètement faux. Et donc on ressent, mais on en parle souvent avec Jean-Philippe ou avec d'autres maires, une espèce de déconnexion, et y compris quand on prend des élus de terrain, qu'on les fait devenir ministres, dans ce contexte-là, on a quand même le sentiment qu'ils sont les mecs pieds et poings liés, ou les mecs ou les dames hein, d'ailleurs, pieds et poings liés, et qu'on peut pas, du coup aller chercher des solutions qui sont assez faciles à comprendre sur le terrain.
Enfin, l'ironie du sort, elle vient de là.
Enfin, l'ironie et la schizophrénie. Je répondais à mon copain Bruno Le Maire. Bruno Le Maire est un ami, un vrai ami. Mais il a encore une fois fustigé les collectivités il y a 3 jours. Et donc, je me suis permis sur les réseaux, c'est la première fois que je le fais. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Mais quand même, de lui rappeler la réalité qu'il y a entre les annonces nationales et la réalité de terrain qui est la nôtre. Nous sommes, nous, sur le terrain des faiseurs. On est là pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu les maires pendant la crise du Covid ? Donc moi je disais à Bruno, en répondant à sa saillie sur l'État qui serait le méchant et les collectivités qui ne seraient systématiquement que les gentils, je lui dis mais attends, moi je suis président de la MIF. Quand je vais voir le ministre du logement qui me dit qu'il manque 1 million de logements en France, il faut construire des logements, et que je vais voir dans la demi-heure le ministre de l'Environnement qui me dit stoppez tout. On se dit, les copains, mettez-vous déjà d'accord, vous ? C'est quoi les messages contradictoires qu'on envoie de la part de l'État sur le terrain depuis des années ? Et nous, il faut qu'on se démerde avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde à un président de la République qui annonce partout qu'il va falloir qu'on va faire un grand plan national pour aller réhabiliter les écoles sur les questions énergétiques. Merci, monsieur le président de la République. Mais enfin, c'est nous, collectivités, qui finançons les écoles. C'est quoi l'aide pour que je finance les écoles ? Moi, j'ai 54 écoles à Évry-Courcouronnes. 54. Peut-être que j'aurais fini en 2050 mon acclimatation au climat, justement, en 2050. Lui, il fait une annonce dans la presse, très bien. Je dis quoi à ma population sur le fait que 54 écoles... J'ai augmenté les impôts. Je fais un truc extraordinaire à Évry-Courcouronnes sur ce mandat. Je réhabilite 14 écoles sur 54. C'est énorme.
C'est énorme.
Énorme, 14 colossal. Écoles. Ouais. Ce qui veut dire que le mandat d'après, je ne pourrais pas en faire plus que 2 ou 3, parce qu'il faudra quand même que j'éponge la dette que j'ai consacrée, que j'ai consentie pendant ce mandat-là. Et à l'échelle nationale, on vous fait des grandes annonces sur la rénovation... thermique, etc., etc. Mais très bien, sauf que demain, la rénovation thermique, y compris des particuliers qui pourront plus louer leur logement, comment on la finance ? Comment, dans la vraie vie, toutes celles et ceux qui lisent ces annonces dans les journaux vont être capables de l'appliquer ? Moi, j'ai des copropriétés compliquées dans un quartier comme le Parc Olièvre, où on vient d'annoncer aux habitants que la rénovation thermique, c'est un reste à charge de 35 à 40 000 euros par logement.
Absolument.
35, ils peuvent pas le payer, ils peuvent pas mettre 2 ou 3 000 euros, donc ils vont pas la faire. C'est ça la réalité de la confrontation entre ce qu'on lit dans les journaux, des annonces des ministres et les vrais habitants se tournent, pas vers le ministre, qui se tournent vers le maire en disant, putain, on me demande 40 000 euros de reste à charge, monsieur le maire, qui va payer ? Moi, je ne sais pas faire. Voilà.
2 millions de logements, 1er janvier 2025. Seront retirés du marché locatif privé s'il n'y a pas eu
Il y a un moment, il faut s'appliquer des principes de réalité. Voilà, un moment, ça suffit.
Merci Stéphane Baudet.
Merci Sylvain.
Maire de Évry-Courcouronnes, président de l'Association des maires d'Île-de-France, vice-président de la région et de Genève, qu'on retrouvera régulièrement sur nos antennes. C'est assez rare, mais on est très heureux et je vous trouve très en forme. Merci et ne changez
allez,
rien.
À bientôt.
Et on se retrouve dans quelques instants.
Et on se retrouve sur le salon de la MIF fin mai.
Avec grand plaisir.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.